en tant que jeune, et ça c'est dans le monde entier, on n'est pas entendu, ou en tout cas on est moins légitime qu'un adulte sur la même question. Et ça c'est un constat qu'on a fait dès les premiers jours. Et donc on s'est rendu compte que la rue c'était vraiment un moyen de se faire entendre, de se faire connaître. Et on s'est retrouvé un jour jusqu'à 70 000 dans la rue, et là on était jeunes, moins jeunes, c'était intergénérationnel. Et c'est à partir de ce moment-là que les politiciens belges se sont dit, bah, tiens, il faudrait peut-être les écouter, ces jeunes.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux 33e rencontres de Pétrarque à Montpellier. C'est déjà la dernière journée de notre semaine consacrée au retour de la rue. Bonsoir Jean-Bierre Baum.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous.
Et nous voici donc au terme d'une semaine consacrée à l'actualité des mobilisations dans l'espace public. Actualité chargée cette année, comme les marches pour le climat et le mouvement des Gilets jaunes ont pu en témoigner. Depuis lundi, nous réfléchissons à ce que disent ces mobilisations de l'état de notre démocratie. En quoi elle porte les stigmates d'une crise de la représentation, mais aussi en quoi elle renouvelle les modes d'intervention, les manifestations et les occupations de place donnant lieu à de grands élans de créativité quand celle-ci n'est pas entravée par la violence. Maintenir l'ordre en démocratie, c'était notre débat tendu de mercredi. Alors il nous restait à décaler notre regard, à voir comment on se mobilise ailleurs, et là encore, quelle actualité. Aujourd'hui, en Algérie, c'était la fête de l'indépendance. Ce fut aussi un nouveau vendredi de protestation massive, le 20e depuis le début d'un mouvement qui a déjà obtenu le départ du président Bouteflika et qui demande désormais à aller bien au-delà. Au Soudan, c'est la rue qui a obtenu le départ de celui qui paraissait indéboulonnable, Omar el-Béchir. Le mouvement, déclenché suite au triplement du prix du pain, a conduit à une transition politique toujours en cours. Et puis Hong Kong, bien sûr, qui commémorait lundi dernier le 22e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. L'occasion, cette année plus encore que les autres, pour la population hongkongaise de manifester en faveur de la démocratie. C'est une marée humaine qui a défilé pour dire non à une loi facilitant les procédures d'extradition vers la Chine continentale 30 ans après Tiananmen. Alors, d'autres rues qu'est le nôtre, c'est donc le thème de cet ultime rendez-vous des rencontres de Pétrarque, en compagnie de trois invités. Pape Ndiaye, bonsoir. Vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste d'histoire sociale des États-Unis, en particulier des minorités. Vous vous intéressez d'ailleurs également aux minorités en France. Vous avez publié cette année chez Flammarion le modèle noir. Je citerai un autre ouvrage qui a un lien direct avec nos discussions de ce soir chez Gallimard, c'était il y a 10 ans. Les Noirs américains en marche pour l'égalité. Pour discuter avec vous, Sophie Bessis, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai vu que vous étiez présentée aujourd'hui sur le site de Radio France Internationale comme une historienne des temps modernes, ce qui est sans doute lié à votre passé de journaliste, le journalisme et l'histoire. Vos recherches, vous les consacrez à l'Afrique subsaharienne et au Maghreb, ainsi qu'à la condition des femmes dans le monde arabe. Votre dernier ouvrage, c'était là encore cette année chez Talendier, Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours. Et puis notre troisième invité, Lun Zhang, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez dû vous réfugier en France après les événements de Tiananmen, dont vous avez été un des organisateurs. Vous étiez à l'époque chargé de la sécurité de ce mouvement. Et vous racontez les espoirs brisés de ces événements dans Tiananmen 1989. Ouvrage, une bande dessinée que vous avez signée avec le journaliste Adrien Gombeau et le dessinateur Améziane. Et cette coédition Seuil Delcourt. Alors j'imagine, Lun Zhang, que vous êtes très attentif à ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Enfin, je fais plus que l'imaginer parce que vous avez signé plusieurs tribunes sur le sujet, dont une dans Le Monde, que vous concluiez ainsi. Si un Hong Kong libre disparaissait complètement, c'est une Chine néo-totalitaire qui naîtrait. Est-ce que ça veut dire que pour vous, les manifestants hongkongais constituent un dernier rempart, un dernier espoir pour l'avenir de la Chine ?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut le situer dans le contexte historique de la Chine depuis l'époque moderne. Hong Kong joue un rôle toujours important comme initiateur, point de départ de la modernité en Chine, mais bien sûr avec une histoire un peu particulière, avec la guerre d'opium, etc. Mais toutes les histoires importantes, culturelles, politiques, à l'époque moderne, plus ou moins liées avec cette ville. Et donc, vous savez que depuis la réforme, l'ouverture depuis 40 ans, et c'est aussi cette ville joue un rôle très important pour l'ensemble de la Chine dans le sud. Et donc, maintenant, 30 ans après la révolution, pendant 30 ans après le mouvement 89, et ce pouvoir essaie en train de, avec la mainmise sur l'ensemble de ce territoire de Hong Kong, Hangangai. Et donc, c'est ma conclusion. Hein. Si Hangang libre est disparaît, je pense que la Chine entière, vous savez très bien, la Chine entière maintenant est déjà très, très bien contrôlée. Donc, voilà.
Est-ce que ça veut dire que les Chinois de Chine continentale regardent aussi de très près ce qui se passe à Hong Kong en espérant que les Hongkongais tiennent bon face au pouvoir auquel ils s'opposent?
À ce propos, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que les autorités jouent beaucoup le nationaliste. En même temps, les informations sont verrouillées, donc ça se passe quoi, hein, vraiment à Hong Kong? Beaucoup de populations de la Chine continentale ne savaient pas. Donc, les autorités en train de dire que c'est les forces étrangères en train de manipuler le mouvement. Et donc, il y a des libéraux soutiennent ce mouvement, et en même temps, il y a certaines populations se méfient de ce mouvement, même hostiles à ce mouvement.
Sophie Bessis, il y a un autre mouvement qui est impressionnant depuis déjà des semaines, voire des mois, c'est ce qui se passe en Algérie. Alors avec aujourd'hui, en cette journée de l'indépendance, manifestement extrêmement massive, pas seulement à Alger, mais énormément de villes algériennes, est-ce que vous y verriez, est-ce que une continuité de ce qu'ont été les révolutions arabes de 2011, ou bien est-ce que c'est un mouvement social et politique tout à fait singulier à vos yeux?
Non, j'y vois une continuité évidente. En réalité, je pense que en 2011, s'est ouverte pour l'ensemble du monde arabe une nouvelle séquence historique. Et il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et au Soudan comme une réplique, pourrait-on dire, d'un séisme qui a commencé en 2011. Alors, même si la plupart des insurrections de 2011 en Syrie, en Libye, au Bahreïn, au Yémen, bien sûr, se sont soldés par des catastrophes, ou en Égypte par une restauration dictatoriale telle que l'Égypte n'en a jamais connue depuis la prise du pouvoir par les militaires en 1952, il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert, et quelque chose, puisque c'est le titre de ces rencontres, quelque chose on peut dire que la rue, ça a repris possession de la politique. Et en Algérie et au Soudan, malgré les différences entre les deux pays, la rue exprime la contestation politique et la revendication politique aujourd'hui, c'est-à-dire que la rue algérienne, comme la rue soudanaise, disent, comme l'ont fait les autres rues arabes en 2011, les dictatures, c'est terminé, les séquences dictatoriales post-coloniales, c'est-à-dire depuis les indépendances, ces pays n'ont jamais connu de régime démocratique, eh bien, nous voulons en finir avec cette période qui s'est ouverte avec les indépendances. Et nous voulons l'instauration de régime démocratique, de régime dans lequel, eh bien, les citoyens, je préfère le terme de citoyen à celui de peuple, qui est un englobant un peu simple, disons, les citoyens ont le droit de choisir et de révoquer leurs dirigeants. Et c'est ce que disent les Algériens aujourd'hui, c'est ce que disent les Soudanais, quelle que soit la complexité avec laquelle il faut le dire, ils peuvent le dire dans la mesure où, évidemment, cela dépend des contextes locaux. Et aujourd'hui, l'Algérie et le Soudan, c'est pas tout à fait le même contexte.
Si on doit faire un tout petit zoom sur l'Algérie, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez ça vient comme une réplique de 2011. Or, en 2011, quand on demandait aux Algériens pourquoi vous ne descendez pas dans la rue, certains répondaient parce qu'on est tellement en colère, tellement exaspéré par tout ce qui se passe et par la chape de plomb qui nous étouffe, que si on descend dans la rue, ça sera l'émeute et on va tout saccager. Et ce qui étonne beaucoup de gens aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu ce que dit Lun Zhang pour Hong Kong, de la même manière, que lui souligne dans son papier du Monde d'hier qu'il y a une sorte de civisme qui fait que les jeunes qui ont envahi le Parlement de Hong Kong n'ont pas saccagé le Parlement, essayer de protéger les biens publics, etc. Aujourd'hui, ce qui frappe en Algérie, dans les rues d'Alger, par exemple, c'est qu'il y a une organisation incroyablement festive, une espèce d'ambiance carnavalesque, qu'il y a des gilets oranges, non pas jaunes, mais oranges, qui font le tampon entre les policiers et les jeunes pour pas qu'il y ait d'affrontement, qu'il y a des gens qui ramassent les ordures derrière les manifestations, qu'il y a des scènes de drague très sympathiques. Enfin bref, on a beaucoup insisté là-dessus. Non seulement il y a une reconquête de la rue par la rue et de la ville algérienne, mais en plus, ça se fait dans une ambiance assez inattendue.
Alors, pourquoi l'Algérie ne s'est pas soulevée en 2011 en même temps que les voisins tunisiens et libyens? Pour une raison assez simple, c'est que en 1991, il faut considérer la donne économique qui est extrêmement importante. En 2011, le pétrole était cher. Et donc le régime a acheté la paix sociale en distribuant des prébendes, en augmentant les salaires. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, le pétrole le prix du baril a baissé de façon importante. Et que donc le régime, il est arrivé à un moment où le régime n'a plus pu acheter la paix sociale. Et quand on regarde les mouvements sociaux en Algérie, depuis 1988, les mouvements sociaux sont intimement liés aux fluctuations des prix du pétrole. Donc là, on est dans une période de prix du pétrole bas, la paix sociale ne peut plus être achetée, et donc les Algériens sortent dans la rue. Mais avec quelque chose d'important, c'est que la revendication politique est aujourd'hui plus importante que la revendication sociale. C'est-à-dire qu'il y a peu de mots d'ordre sociaux, le mot d'ordre est essentiellement politique. Maintenant, cela dit, il ne faut pas confondre Alger avec le reste de l'Algérie. Les manifestations d'Alger sont exemplaires, elles sont très mixtes, elles sont très citoyennes. Dans le reste de l'Algérie, c'est parfois un tout petit peu plus compliqué.
Il ne s'agit évidemment pas de confondre Alger avec le reste de l'Algérie, ni l'Algérie avec le Soudan et avec Hong Kong.
Certes.
Et donc ne pas non plus essayer de trouver à tout prix de la cohérence dans ces différents mouvements. Mais pour autant, je vais quand même vous poser cette question, Pape Ndiaye. Déjà, vous comme historien, comment est-ce que vous voyez ces mouvements? Est-ce que vous reconnaissez aussi des choses dans ce que vous observez, par exemple, en particulier aux États-Unis? Vous avez beaucoup suivi le mouvement Black Lives Matter, qui vise à dire que voilà, les Noirs américains ont le droit de vivre. C'est un mouvement qui est né après des violences policières. Est-ce que vous voyez peut-être quelques points communs, notamment sur le fait que la rue redeviendrait politique?
La rue redevient politique, on pourrait dire aussi qu'elle ne l'a jamais cessé, elle n'a jamais cessé de l'être. Et au fond, ces mouvements-là, me semble-t-il, aux États-Unis comme ailleurs, ne viennent pas de nulle part. Ils ont une histoire longue qui est accumulée avec des zigzags, avec des difficultés, aussi avec des échanges transnationaux. Le mouvement Black Lives Matter, par exemple, qui apparaît à partir de 2013 aux États-Unis, s'appuie sur des savoir-faire anciens qui sont les savoirs pratiques de la rue, comment on organise une manifestation, comment on organise un sit-in. Ça ne s'invente pas. On a besoin de ces savoirs accumulés qui ont cristallisé aux États-Unis, surtout pendant le mouvement pour les droits civiques. J'ai été frappé par le fait que les initiateurs du mouvement Black Lives Matter allaient demander des renseignements, allaient s'instruire pour savoir comment on faisait à la fin des années 50 et dans les années 60. Et puis le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis s'appuyait lui-même sur une histoire plus ancienne, en particulier du côté de l'Inde. L'Inde de Gandhi, qui est absolument centrale au XXe siècle pour la mise au point, en quelque sorte, de ces savoir-faire pratiques qui permettent de résister face à un pouvoir qui est éventuellement disposé à utiliser des moyens violents.
Lorsque vous êtes jeune sociologue, Lun Zhang, en 1989, sur quel savoir est-ce que vous vous appuyez pour organiser ce mouvement qui est un mouvement qui va très très vite prendre une ampleur extrêmement conséquente, qui est celui donc de la place Tiananmen? Alors il faut peut-être d'ailleurs, puisque vous le disiez tout à l'heure, il faut toujours remettre dans son contexte, il y a un événement qui se passe à ce moment-là, c'est la mort d'un ancien dirigeant chinois très apprécié de la jeunesse, qui va déclencher des choses, mais ensuite il faut quand même organiser le mouvement.
Je crois que vous avez posé une question très difficile à répondre. C'est pas parce que je suis un sociologue, je peux répondre de cette manière simple, parce que récemment, pour le 30 ans d'anniversaire, justement, que dans beaucoup d'entretiens, l'article, j'ai insisté sur un point. C'est quoi? C'est que pour un régime totalitaire, il écarte toutes les possibilités d'avoir une organisation de la part de la société civile. Le problème, c'est que pour X raisons, dans un contexte particulier, tout d'un coup éclatent certaines protestations. Pour ce genre de mouvement de masse, c'est très difficile, même avec des étudiants plus ou moins un peu, qui ont une identité plus ou moins un peu similaire, plus facile de s'organiser, mais c'est très difficile de organiser ce genre de manifestation. Donc, 89, il faut dire qu'il faut rendre hommage aux manifestants, c'est parce que c'est plutôt avec cette autodiscipline qu'on a réussi à maintenir dans une gigantesque ville pendant 54 jours de paix. Même à certains moments, les autorités cyniquement retiraient toutes les forces policières. On vous laisse, hein? Ok? Si vous créez le chaos, ça nous arrange mieux. Et donc, C'est sur ce point-là, j'insiste beaucoup, c'est que depuis 30 ans, dès l'occasion présente, que je vous le dis toujours, je dis une chose, c'est parce que les autorités, pour justifier la répression, toujours disent que c'est le chaos, en tout cas, on est obligé de faire le... Mais moi, je suis le responsable de l'ordre de la part des manifestants. Tout ce que nous voulions faire à ce moment-là, c'est justement pour garder l'ordre, pour essayer de créer de chaos, c'est aussi, c'est ça, ça explique pourquoi cette forme à cette, de protestation à certains moments, le crève de faim. 3000 étudiants faisaient le crève de faim. Vous savez que si vous voulez créer de désordre, comme les autorités disent, et d'ailleurs, certaines personnes, même à l'étranger, avec toutes ces propagandes, après, on a oublié un peu, c'est ça. Mais justement, on voulait pas de désordre. Et donc, et c'est un grand problème, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui que les régimes tirent une leçon toujours, c'est que dès qu'il y a le signe de protestation, il faut toujours, dès qu'il y a des signes d'organisation, on supprime toujours, réprime toujours, mais problème, tôt ou tard, un jour il y a le problème à résoudre, comment on va faire?
Alors Sophie Bessis, vous savez que depuis le début de ces rencontres, on a essayé de créer, effectivement, comme a dit Hervé, il n'est pas question de rabattre les différences, de faire comme si toutes les rues se valaient ou étaient équivalentes, mais on a essayé quand même de créer des résonances, non seulement entre les mouvements de rue en France, mais aujourd'hui un peu partout dans le monde et même à travers l'histoire. Et Papendia disait tout à l'heure, bah oui, le savoir-faire des mouvements des droits civiques, par exemple, le savoir-faire de la rue ne venait pas nulle part, il a parlé de Gandhi, etc. Et dans son livre, son très beau livre s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » d'Elsa Dorlin, Elsa Dorlin, justement, montre que la rue, quand on la lit, on voit que la rue, c'est une constellation. Les rues du monde sont des constellations, une grande constellation des rues du monde entier. Et elle montre, par exemple, que le mouvement des Black Panthers, dans sa pratique de l'autodéfense, se réclamait des insurgés du ghetto de Varsovie pendant la guerre, et que le mouvement des Black Panthers a inspiré ensuite les patrouilles LGBT, etc., qui luttaient notamment contre l'homophobie dans les rues. Et de ce point de vue, quelle est la place d'Alger, Alger qui a été la Mecque de la Révolution pendant longtemps, comment est-ce que vous définiriez la place d'Alger dans cette espèce de constellation des rues en révolte ?
Je pense qu'il faut relativiser cette place. Certes, Alger a été considéré comme, parce qu'Alger a accueilli entre 1962 et 1969, le fameux festival panafricain d'Alger a accueilli les mouvements de libération des pays qui étaient encore colonisés en Afrique subsaharienne. Cela dit, vous avez une certaine schizophrénie de l'Algérie à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'Algérie a été la Mecque de la Révolution, mais c'était l'époque, à partir de 65, à partir du coup d'État de Boumédienne, où personne ne pouvait plus bouger en Algérie. C'est-à-dire que toute manifestation était interdite. Donc il y avait d'un côté cet aspect d'international, de libération, et de l'autre côté, les Algériens qui étaient soumis à un régime dictatorial. Donc, vous voyez que ce clivage a été peu perçu, disons, au niveau international, mais ce clivage a été très perçu, en revanche, par les Algériens. Mais je voulais revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire cette cohérence entre les rues, ou en tout cas ces exemples entre les rues. Je vais vous donner une anecdote qui m'apparaît très intéressante. Quand il y a eu la révolution de 2011 en Tunisie, bon, les Occidentaux ont appelé ça révolution du jasmin. Les Tunisiens l'appelaient plutôt révolution du cactus, d'ailleurs, hein, plutôt que du jasmin. Mais le terme de jasmin a été rayé, a été interdit des sites en Chine, par exemple. C'est-à-dire que le mot jasmin était interdit en Chine. Donc, voyez comment les exemples peuvent... On a peur des mots, on a peur des autres rues, parce que les autres rues, aujourd'hui, avec évidemment... Le développement de la communication internationale et des réseaux sociaux, eh bien, la Chine est à des milliers de kilomètres de la Tunisie, mais les révolutions arabes ont été perçues par les pouvoirs autoritaires bien en dehors de l'ère arabe comme des dangers potentiels, des dangers d'exemplarité. Et ça, je crois que c'est très important.
Oui, ce que vous me dites me fait penser à la mère, en quelque sorte, de toutes les révolutions à l'échelle mondiale, qui est la révolution haïtienne, à partir de 1791, qui envoie des échos dans le monde entier, non seulement les systèmes esclavagistes de toutes les Amériques, qui se raidissent de terreur à la pensée que des esclaves puissent se révolter et même puissent l'emporter, C'est le cas avec la création d'Haïti en 1804. Mais d'une manière générale, tous les régimes autoritaires sentent bien qu'il se passe quelque chose et que, d'une manière ou d'une autre, les opprimés, les esclaves en particulier, essaient de rassembler des informations autant que possible sur ce qui se passe à Haïti. Il y a quelque chose qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la Révolution française, qui est si centrale dans notre imaginaire politique, si centrale aussi dans l'enseignement secondaire et supérieur, est aujourd'hui accompagnée par la révolution haïtienne, par la révolution américaine, dans un ensemble qu'on appelle les révolutions atlantiques, parce qu'au fond, ces trois révolutions sont indissociables de ce que cela a produit politiquement, à la fois les idéaux, bien sûr, la déclaration des droits de l'homme, mais aussi, encore une fois, ces savoir-faire, comment on fait pratiquement lorsque le rapport de force est défavorable.
Et par exemple, une des manières de faire, c'est simplement juste d'exhiber son corps et de faire son corps une banderole. On en parlait hier, la banderole, comme Philippe Artier l'a définie, c'est souvent une seconde peau, un signe de chair qui permet d'inscrire l'espérance et la protestation à même la rue. Et de ce point de vue, je voulais revenir à ce qu'on a dit hier, puisque Ina Shevchenko était là, elle représentait les fémènes, qui donc brandissent leur corps nu et leur torse nu pour défendre le féminisme. Et dans son petit livre sur la banderole, Philippe Artier justement fait le lien, encore une fois on essaie de créer des résonances dans ces constellations, il fait le lien entre les fémènes et le mouvement des droits civiques américains, et notamment les marches des Nord-Américains. Il parle notamment de la célèbre marche de Memphis, quelques jours avant l'assassinat donc de Martin Luther King, et il explique que les Noirs à ce moment-là juste se balade et marche physiquement avec des pancartes marquées juste I am a man, et que finalement ils retournent, et ça c'est la spécificité pour le coup du combat des Noirs, il y a une singularité, c'est qu'ils retournent le fait qu'ils étaient des hommes sandwich en revendication. Ils font de ce statut d'homme sandwich, quelque part, ils le retournent de l'avilissement à la fierté et de l'humiliation à la manifestation.
On se réapproprie le corps à Memphis en 68, ou bien la grande marche de Selma en 1965, sur une centaine de kilomètres à travers les campagnes surchauffées de l'Alabama, qui elle-même fait écho à la grande marche du sel de Gandhi en mars-avril 1930. L'idée aussi d'un corps qui s'expose, mais d'un corps souffrant que l'on contrôle. C'est pas le corps dominé, c'est le corps que l'on met au travail, en quelque sorte, mais pour une cause politique, un corps qui peut lâcher, enfin un corps qui peut souffrir d'ailleurs de façon extrêmement violente, mais qui devient de ce point de vue-là une arme politique.
Et aujourd'hui, comment ça se manifeste, Pape Ndiaye ?
Aux États-Unis, depuis 2016, c'est-à-dire depuis l'élection de Trump, le mouvement Black Lives Matter s'est affaissé pour une raison simple, c'est que un mouvement politique, un mouvement de rue y compris, a besoin d'interlocuteurs quand même politiques dans une démocratie. Il a besoin de gens qui répondent au téléphone, en quelque sorte, du côté du Parlement ou bien du côté du pouvoir exécutif. Avec l'arrivée de Trump, sans pour autant laisser entendre qu'il s'agisse d'un pouvoir dictatorial ou même autoritaire, les grands mécanismes de la démocratie américaine sont plus ou moins respectés jusqu'à présent, il n'en demeure pas moins que le mouvement s'est affaissé faute d'interlocuteurs. Donc là, du côté américain, on est au point mort.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, Pape Ndiaye, sur cette nécessité d'avoir des interlocuteurs. Peut-être quand les mouvements ne sont pas révolutionnaires, quand ils sont révolutionnaires, on ne va pas forcément discuter et débattre avec le pouvoir, mais c'était justement le cas. Place Tiananmen, Lunzong, en 1989, vous insistez beaucoup dans votre livre sur cet aspect, de dire il ne s'agissait pas de renverser le régime, mais plutôt d'aider le régime à convertir les réformes économiques en réformes politiques.
Je pense que ici, il s'agit d'un autre malentendu assez répandu en Occident. On qualifiait le mouvement de 89, de Place Tiananmen, comme un révolte, comme une révolution. Mais c'était pas vraiment le cas. C'est un mouvement part d'un sens de réforme. Et c'est parce que ça est issu de 10 ans de réforme. Tout le monde profite de plus ou moins le résultat. Donc, mais en même temps, apparaît certains problèmes, la corruption, tout ça. Donc, les étudiants, les manifestants voulaient que la réforme avançait davantage, pas se limiter au champ propre économique. Et c'est donc, c'est un mouvement de réformateur, mais après, comme le régime quand on pursue une position très dure, du coup, ça petit à petit transforme un mouvement protestataire qui franche une étape, par exemple après la loi martiale, les étudiants réclament changer le régime, tout ça, mais ça c'était pas au début le cas.
Ouais. Et puis ça se passe aussi dans un contexte qui est très enthousiasmant pour la jeunesse intellectuelle chinoise. Il y a une phrase d'un de vos personnages dans la bande dessinée, moi, qui m'a frappé, c'est quelqu'un qui dit nous sommes, alors on est au printemps 89. Les événements de Tiananmen n'ont pas encore tout à fait commencé. Et un personnage qui dit « Nous sommes en train de créer le siècle des Lumières de la Chine ». Ça veut dire qu'il y avait vraiment cette idée-là que le pays allait être bouleversé par le progressisme.
Oui, vous savez que peut-être parfois en France, les Français ignoraient un peu l'importance de rayonnement de la pensée française. Hein. Vous devez savoir... 89, et c'est au nom aussi de commémorer 200 ans de la révolution française qu'on a lancé aussi ce mouvement. Hein. Et surtout au début des intellectuels, il y a une poignée intellectuelle qui lançait une pétition demandant la libération des prisonniers politiques, etc. Donc, ce que je veux dire, hein, c'est que je pense que la rue, hein, c'est quelque chose toujours, vous voyez, entre la maison, hein, plutôt l'espace privé, la rue, c'est la société d'une certaine manière, une figuration concrète de la société et aussi le siège de pouvoir. Ces trois pôles séculés, comment, dans une période carte un équilibre dynamique, ça toujours, c'est quelque chose de la vitrine, le miroir d'une période. Et quand ça se passe mal, il y a des blocages, la rue, par définition, c'est pour la circulation, communication. Et quand il y a circulation, passe mal, la communication passe mal, et donc ça crée toujours des problèmes, il commence à avoir des symptômes. La Chine, le cas de la Chine, c'est que je suis témoin, hein, je cantire pendant la période maoïste, je sais à quel point la rue était complètement bloquée à l'époque, et il y a pas d'animation, il y a rien, sauf de temps en temps le pouvoir organiser de grandes manifestations, soit contre les Américains, contre les Français occidentaux, ou de soutien pour telle ou telle directive de Mao, etc. Et donc c'est après la réforme ouverture, vers la fin des années 70, tout d'un coup, la vie reprit la couleur. Les filles s'habillaient en robe rouge. D'ailleurs, à l'époque, il y a même un roman qui porte ce nom en disant que la rue, maintenant, la mode, c'est la robe rouge. Et en même temps, les gens dansaient dans la rue parce qu'on n'a pas d'autre espace au début des années 80. Donc, le mouvement de 89, c'est issu de ce grand mouvement de libération, issu de ce grand mouvement de libération de la rue. Et le problème, simplement, que les régimes voulaient contrôler cette rue, et c'est après la répression, vous savez que beaucoup de gens peut-être pas au courant, même la configuration de la rue, comment la manière de construire la rue, et on a changé, justement pour éviter, par exemple, le trottoir, essayer de réduire tout ça, pour essayer de rassembler des gens dans la rue. Et donc, aujourd'hui, vous savez très bien, tout le monde en parle, qu'en Chine, si vous traversez dans la rue, il y a des millions de caméras qui vous surveillent. Et donc, ça, c'est l'incarnation concrète de ce pouvoir néo-totalitaire à l'époque, hein, de l'appel néo-totalitarisme à l'époque de numérique. Voilà, c'est là que je pense que quand la rue, hein, la rue c'est toujours un miroir d'une période. Quand il y a des symptômes politiques, passe mal et ça plus ou moins toujours se traduit dans la rue. C'est comme le cas de Hong Kong. Pourquoi Hong Kong maintenant il y a parce que on n'a pas d'élection. Voilà, du coup ça se passe comme ça.
Alors Sophie Bessy, c'était très beau là, parce que Lun Zhang a dit, il a dit notamment en 89, la vie a repris ses couleurs, la vie a repris ses couleurs. Et quelque part, le cas algérien illustre un peu ça, parce que vous voyez bien que, exactement comme en Chine à ce moment-là, le pouvoir algérien aujourd'hui essaie d'empêcher la rue de reprendre le pouvoir ou de reprendre des couleurs. Et comment fait ce pouvoir ? il se réclame lui-même d'une couleur, en tout cas du noir. Il dit, on va retourner aux années noires. Attention, le grand chantage, c'est de dire, attention, si vous ne maintenez pas l'ordre, si on ne maintient pas l'ordre, si vous vous agitez trop, le risque, c'est de retourner au chaos et à la fameuse décennie noire, qui était en fait une décennie rouge et sanglante. Et le pouvoir a dit, on va retourner aux années de braise. Donc, un peu partout, il y a une constellation de la rue en révolte, mais aussi une constellation du pouvoir et de son vocabulaire pour essayer d'empêcher la rue de reprendre des couleurs.
Certes, bien sûr, et on s'aperçoit que là où les pouvoirs sont militaires, dans le monde arabe tout du moins, là où les pouvoirs sont militaires, c'est là où les révolutions ont échoué. Où sont très difficiles à négocier, comme au Soudan aujourd'hui, comme en Algérie, comme ça a été le cas en Égypte en 2011, bien évidemment, ou bien que quand ce sont des monarchies dictatoriales, ou alors là, la contre-révolution est à l'œuvre. Mais en Algérie, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, au début des manifestations, c'est-à-dire au début du mois de mars, fin février, en mars, l'état-major a agité le fantôme des années noires, qui ne sont pas les années de braise. En Algérie, les années de braise, c'est la guerre d'indépendance. Hein. Donc, ça, c'est la décennie noire, comme on l'appelle en Algérie. Mais ça a duré assez peu de temps. Et pourquoi ça a duré assez peu de temps ? Parce qu'en réalité, même si le général Gaïd Salah, qui est chef de l'état-major aujourd'hui, est une créature du système Bouteflika, l'armée a trouvé des bénéfices dans la révolte de la rue, et a chevauché la révolte de la rue un certain temps, parce qu'il y avait disons que le système Bouteflika et le président Bouteflika avaient marginalisé l'armée au profit des oligarques et au profit de son clan. Et pour la première fois depuis l'indépendance, l'armée, sous les 20 ans de Bouteflika, avait été contrainte de partager la rente. Et avait partagé la rente avec les oligarques. Et évidemment, ça ne lui plaisait pas, l'armée, de partager la rente, puisqu'elle ne l'avait jamais fait jusque-là. Elle avait distribué des portions de rente pour acheter la paix sociale, mais elle ne l'avait pas partagée. Et donc, en fait, on peut comprendre pourquoi, durant les premiers mois de l'insurrection algérienne, de l'insurrection pacifique, de l'insurrection civile algérienne, eh bien, elle n'a pas eu de répression. Ou une répression très soft, pourrait-on dire, parce que l'état-major, je ne dis pas l'armée, je dis l'état-major, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, a profité de la révolte de la rue pour évincer Bouteflika et pour évincer son clan. Donc ça a été quelque part une instrumentalisation de cette demande algérienne de citoyenneté, de cette demande algérienne de changement de régime. Aujourd'hui, on n'agite plus, l'état-major n'agite pas le spectre de la décennie noire, mais agite le spectre du désordre et dit, mais non, mais moi, je suis tout à fait prêt à discuter avec vous, mais en fait, refuse pour l'instant la discussion, dans la mesure où, de l'autre côté, du côté de la rue, une décennie de décennie noire et 20 ans de système Bouteflika ont désertifié le paysage politique algérien. Et qu'aujourd'hui, depuis la fin du mois de février, le paysage politique et la société civile algérienne sont en train de se reconstituer. Et sont en train, aujourd'hui, d'élaborer des stratégies qui pourront permettre de négocier avec l'armée. Donc, on est au début d'une recomposition politique en Algérie. C'est ça qui est très intéressant. Alors qu'au Soudan, la rue soudanaise, la révolution soudanaise avait déjà ces représentants politiques qui pouvaient discuter avec l'armée.
Papa Ndiaye.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Sophie Bessis, il me semble que le calcul stratégique, pourrait-on dire, de la rue politique, c'est un calcul par rapport à la réaction du pouvoir.
Bien sûr.
Y compris pour des pouvoirs sanguinaires, autoritaires. C'est-à-dire, c'est que on parie sur le fait que le pouvoir n'osera pas user des moyens radicaux de violence. Autrement dit, la rue politique n'est pas une rue sacrificielle. C'est pas une rue qui sacrifie sa vie de façon automatique, en quelque sorte. On parie, bien entendu, sur le fait que le pouvoir usera de moyens violents, mais que ces moyens violents s'arrêteront quand même quelque part et que il n'y aura pas un massacre généralisé. Bien entendu que le calcul stratégique échoue parfois et qu'il y a aussi des massacres.
Est-ce que c'est aussi valable d'ailleurs pour un mouvement comme Black Lives Matter, justement, Papa Ndiaye? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ce pari d'une forte visibilité dans la rue qui empêcherait ce pouvoir, qui est ce pouvoir de la police, qui dépend notamment de l'État aux États-Unis, bien sûr, que ce pouvoir-là n'osera pas faire ce qu'il fait, peut-être.
Oui.
Sachant qu'il y a aussi tout un travail de documentation avec les vidéos qui qui est menée pour peut-être protéger ceux qui manifestent.
Voilà, c'est particulièrement vrai d'ailleurs pendant le mouvement pour les droits civiques. L'intérêt d'un Martin Luther King pour la télévision, par exemple, c'est pas simplement diffuser le message du mouvement, c'est aussi une sorte d'assurance-vie. La présence de la télévision garantit en quelque sorte que les policiers, y compris les policiers les plus violents de l'Alabama, comme le shérif Connor, par exemple, à Birmingham, n'osera pas utiliser des armes à feu parce qu'il sait que le soir sur CBS à 6 heures, les images seront projetées partout. Donc la télévision pour King, c'est son assurance-vie. C'est une expression qu'il utilise. Et donc il y a une sorte de pari qui était aussi le pari de Gandhi en Inde. C'est le pari d'une trace d'humanité chez l'adversaire, si vous voulez. C'est-à-dire que on va exploiter la trace d'humanité qu'il y a dans le policier, par exemple, ou l'agent des forces de l'ordre le plus féroce, pour en quelque sorte faire de telle sorte qu'il va être convaincu de la justesse de la cause. C'est un pari extrêmement risqué, bien entendu, et qui ne marche pas à chaque fois. Mais on peut dire que le mouvement pour les droits civiques, alors qu'il avait face à lui des forces extrêmement violentes, n'a pas débouché sur un massacre généralisé dans le sud des États-Unis. On pourrait même dire, de manière un peu provocante, qu'à Paris, en 1961, je pense évidemment aux Algériens tués et jetés dans la Seine en octobre 1961, il y avait beaucoup plus de morts à Paris à ce moment-là que dans l'Alabama ou dans le Mississippi.
La télévision, oui, pardon.
Non, je voudrais juste dire un mot. C'est ce que vous dites est très intéressant parce que quand on regarde les événements actuels en Algérie, on s'aperçoit qu'effectivement les manifestants algériens, pendant tous les mois qui viennent de s'écouler, les manifestants algériens sont allés vers les forces de l'ordre en fraternisant avec les forces de l'ordre et en souhaitant fraterniser avec les forces de l'ordre en disant « Vous êtes avec nous, vous faites partie du peuple algérien, vous ne faites pas partie des privilégiés ». Et il y a eu d'ailleurs des manifestations de fraternisation, comme ça a été le cas en Tunisie et en Égypte en 2011 également, où, disons, le vulgum pecus de l'armée a fraternisé avec les manifestants. C'était très clair à chaque fois, et ce sont les états-majors qui ont repris le pouvoir, mais pas la base des forces de l'ordre, des forces de l'armée.
Mais ça, c'est un phénomène classique dans toutes les révoltes, toutes les révolutions de rue. Mais la question qui se pose, et ça rejoint ce que vous disiez, mais de l'autre côté, vous parliez du pouvoir. Si on parle de la rue, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'en 2011, apparemment, ça n'était pas encore possible, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toute une jeunesse, et pas seulement une jeunesse, beaucoup de femmes, etc., de tous âges, de toutes générations, de tous milieux sociaux, s'autorisent physiquement à réinvestir les rues en Algérie, alors que ces rues ont été le théâtre de choses aussi sanglantes et aussi violentes de la part de ce même pouvoir policier. Si tous ces gens, tous ces jeunes, toutes ces femmes et autres peuvent encore oser faire le pari d'une fraternisation, c'est que quelque chose a changé et qu'ils retrouvent un motif de confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Et d'abord, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la jeunesse algérienne d'aujourd'hui n'a pas connu la décennie noire. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, la décennie noire s'est terminée en 1999, à la fin des années 90. Donc, cette jeunesse algérienne n'a pas connu. C'est une jeunesse qui n'a pas été traumatisée. Bien sûr, il y a la mémoire parentale de cette décennie, mais elle ne l'a pas connue elle-même. Donc, les gens qui descendent dans la rue n'ont pas dans leur chair, n'ont pas dans leur corps cette mémoire de ces épouvantables années 1990 en Algérie. Ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Et l'autre élément important, comme je vous le disais, c'est que ce régime aussi, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, est arrivé à un épuisement total. Et que ce qu'on appelle la rue a conscience de cet épuisement. Une conscience tout à fait fine, tout à fait politique de cet épuisement. Ce régime ne peut plus se survivre à lui-même dans les formes qui sont les siennes depuis tant de décennies.
Il y a l'épuisement côté régime, et puis il peut aussi y avoir l'épuisement du côté de la population chinoise, Lu Zong. Oui, ce qui s'est passé en 1989 a forcément eu un effet sur la capacité de mobilisation de la population.
Oui. Bon, je reviens à mon idée principale à propos de cette question entre la rue et du pouvoir. Avant 89, on avait senti que il y a un problème, ça allait exploser quelque chose. À ce moment-là, une poignée d'intellectuels démocrates, un peu d'avant-garde, dont je fais partie, on a lancé une idée, c'est que essaie de déplacer le conflit potentiel de la rue vers le palais du peuple, où se siégeait le congrès national. Mais vous savez tous, ce congrès national, c'est la marionnette, hein, c'est l'instrument du parti. Il n'y a aucune représentativité. On n'a pas une élection. Personne sait comment ils sont élus. Et donc, si on a fait la réforme à temps, je pense qu'il n'y aura pas 89. Donc, du coup, je reviens à la même chose. Ce que se passe sous nos yeux à Hong Kong, vous savez que il y a 3 jours, le 1er juillet, pourquoi la manifestation franchit une étape, on a occupé le Parlement, c'est parce que depuis 20 ans, on réclamait cette élection libre de choisir les représentants. Est toujours repoussé, et après même on enterrait totalement le projet de la démocratisation. Bien sûr, maintenant la société trouve pas le représentant, et donc et dans ce cas-là, cette tension entre la rue et le siège, hein, où incarne le pouvoir, pose des problèmes. Et donc, je pense que de ce point de vue, je pense c'est un peu général. Et la rue, c'est l'espoir, hein, parfois c'est la colère et c'est la joie, c'est la vie. Mais en même temps, il y a le danger, il y a la tristesse, ça peut créer de chaos. Et donc, le véritable défi pour notre temps, c'est pour comment on peut transformer des pouvoirs dans un pays autoritaire, soit des pouvoirs vraiment représentatifs, et bien sûr, dans le pays démocratique, comment on peut mieux moderniser nos institutions démocratiques représentatives pour répondre à la société, pour éviter la rue créer des désordres. Je pense que la rue, on a toujours besoin de la rue. Hein. Il y a trop de la rue, c'est toujours quelque chose de signe pathétique, mais pas de la rue, c'est aussi le problème de pathétique, de signe pathétique. Donc, dans un régime totalitaire ou autoritaire, il n'y a pas de la rue. Et dans ce cas-là, un jour, ce problème arrive. Donc, il y a trop de rue. Il faut absolument trouver des bons milieux de manière institutionnelle pour créer un dialogue, un rapport dynamique entre la rue et le pouvoir, le siège du gouvernement.
Pape Ndiaye, vous êtes, je rappelle, historien, vous vous intéressez beaucoup aux États-Unis, même si ça n'est pas votre seul champ d'investigation. Est-ce que la rue et la façon dont elle se manifeste, justement, aux États-Unis, ressemble à ce que l'on décrit aujourd'hui, ce qu'on a pu décrire cette semaine? Je crois que vous avez écouté un petit peu les discussions que nous avons eues depuis lundi. Il a beaucoup été question, notamment, de manifestation, qui est, si ce n'est une spécificité française, en tout cas quelque chose qui est très marquant chez nous. Et en préparant cette discussion, vous disiez que vous considériez qu'il y avait peut-être davantage d'inventivité de l'autre côté de l'Atlantique que par chez nous. La matière.
Oui, parce que les États-Unis, depuis la fin du 19e siècle, ont été quand même le réceptacle de tout ce que l'Europe, et pas seulement l'Europe d'ailleurs, comptait comme militants, révolutionnaires, anarchistes, socialistes de tout poil, qui se retrouvent à New York, à Chicago et ailleurs. Et donc la rue américaine à la fin du 19e siècle, c'est la rue la plus violente des grands pays industrialisés. Je rappellerai simplement le massacre de Haymarket à Chicago le 1er mai 1886. Les militants ouvriers se font tuer par la police. Il y a aussi des policiers qui sont tués. Il y a un procès, ils sont exécutés en chantant la Marseillaise, d'ailleurs, à l'époque où l'international n'était pas encore l'hymne de la Seconde Internationale. Et c'est l'origine de notre 1er mai, hein, c'est l'origine de la fête du travail en France et dans de nombreux autres pays. Donc il y a une histoire qui est une histoire marquée aux États-Unis par l'extrême violence et la grande répression de ces mouvements socialistes et révolutionnaires qui existaient très fortement aux États-Unis. À chaque fois qu'il y avait une expulsion de militants révolutionnaires en Russie tsariste, eh bien ces militants se retrouvaient à New York et ailleurs. Et ils n'arrêtaient pas de faire de la politique, et ils importaient également aux États-Unis des pratiques autrement plus rigoureuses d'ailleurs, parce qu'ils avaient survécu à la police tsaristes. On peut aussi penser aux juifs de Russie, de l'Empire russe, qui arrivent massivement à partir des premiers pogroms de 1881 ou 1882.
Donc, il en reste quoi aujourd'hui de cette histoire, justement?
Donc, il y a une longue histoire qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, parce qu'on voit les États-Unis comme les pays un peu conservateurs, où il n'y aurait pas de manifestations. Bien sûr que si, qu'il y a eu de grandes manifestations, et bien sûr que ça n'est pas tout à fait enterré, et on l'a vu ces dernières années, je pense par exemple aux grandes manifestations féministes, de femmes surtout, pas que, qui ont suivi l'élection de Trump. C'était tout à fait intéressant de voir qu'il y avait dans les campus des cours qui étaient donnés par des historiens et des historiennes pour rappeler la longue histoire du mouvement ouvrier américain, pour en quelque sorte énergiser les militantes qui voulaient protester contre l'élection de Trump. Et puis j'ai parlé de Black Lives Matter tout à l'heure. Donc je crois que ces longues histoires-là, elles ne meurent jamais tout à fait, et elles ne demandent qu'à être réactivées. Encore faut-il évidemment que le contexte s'y prête et qu'il y ait aussi des vecteurs, c'est-à-dire des agents, par exemple des universitaires, mais pas que. Il y a aussi des traditions familiales, il y a les généalogies familiales, hein, où on se raconte de famille en famille ce qu'on a pu faire dans le passé, qui fait que tout ça peut se réactiver, rejouer dans certains moments.
Alors juste, si on doit être à nouveau dans le contemporain, une des différences quand même entre la France par exemple et les États-Unis, quoi qu'on dise, c'est qu'aux États-Unis, tout de même, la rue, et vous le savez mieux que tout le monde, mieux que quiconque, est une frontière aussi raciale. Et donc il y a social mais aussi racial, et il y avait un livre magnifique, si vous l'avez pas lu je vous exhorte à le lire très très vite, qui s'appelle Enquête de respect, d'un anthropologue franco-américain, enfin d'origine française, qui s'appelle Philippe Bourgois. Et ce livre était, il racontait comment il s'était installé dans un quartier déshérité de New York, et comment, en se baladant dans la rue en tant que blanc, il était en permanence rattrapé, il avait l'impression de franchir une frontière sociale et aussi raciale, et qu'en permanence il avait l'impression de violer une sorte d'apartheid. Et je voudrais juste vous lire un passage de ce livre où il dit donc qu'il était tout le temps, il n'était pas tellement embêté par les dealers, etc., mais qu'il était embêté par la police. Je n'étais pratiquement jamais abordé par les revendeurs de rue, écrit Philippe Bourgois. Au pire, il s'éloignait tout simplement ou m'ignorait. Par contre, j'étais sans cesse arrêté, fouillé, insulté et humilié par les patrouilles de la police de New York. De leur point de vue, il n'y avait aucune raison pour qu'un blanc se trouve dans les parages, à moins qu'il ne soit policier, en civil, ou toxicomane. Et parce que je suis maigre, ils optaient immédiatement pour la seconde solution.
Oui, c'est un très beau livre sur cette expérience dans les quartiers marqués par la drogue et notamment le crack à New York dans les années 80 et 90. Et il est vrai que l'espace politique et public est structuré racialement aux États-Unis, ce qui est beaucoup, beaucoup moins le cas en France, y compris pendant la période coloniale. Donc ça, c'est une donnée tout à fait évidente. Mais pour autant, cette frontière-là, qui est une frontière sociale tout à fait rigoureuse, la ségrégation, c'est une réalité dans beaucoup de villes américaines, ça n'est pas une frontière politique absolument étanche. Le mouvement pour les droits civiques, il est aussi travaillé par la présence de non-noirs, si je puis dire. Il y a des militants blancs qui sont là, notamment l'importance du militantisme juif dans le mouvement pour les droits civiques après l'affaissement de l'antisémitisme après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, à rediriger des forces militantes en quelque sorte du côté des bandes noires. On peut regarder aussi ces présences-là qui font que on n'est jamais dans une homogénéité raciale lorsqu'on se penche sur les questions politiques.
Sophie Bessis, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait Kopendia.
Non, je voulais dire que je pourrais reprendre presque mot pour mot.
Bien devant le micro,
Que je pourrais prendre presque mot pour mot ce qu'a dit Kopendia sur la mémoire politique et sur les généalogies familiales. Par exemple, si je prends l'exemple du Soudan, qui est un exemple dont on ne parle pas assez en France et qui est extrêmement intéressant, on ne peut pas comprendre la structuration politique de la rue soudanaise aujourd'hui si l'on oublie que le Soudan a eu le parti communiste le plus important du monde arabe depuis plus d'un demi-siècle, avec l'Irak. Hein, les deux partis communistes les plus importants du monde arabe étaient le parti communiste soudanais et le parti communiste irakien. Et malgré la répression féroce dont il a été victime sous la dictature de Nemeiri, puis plus tard, eh bien, quelque chose en est resté dans la clandestinité et quelque chose de très structuré politiquement. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, par exemple, où les manifestations du politique aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Et si on prend l'exemple tunisien, au niveau du mouvement féministe qui est puissant en Tunisie et qui a obtenu des victoires, y compris une victoire constitutionnelle dans la mesure où dans la constitution de 2014, l'égalité des sexes est dûment écrite, hein, eh bien, il ne faut pas oublier que dans un pays comme la Tunisie, eh ben, il a commencé dès les années 1930. On peut parler d'un proto-féminisme dès les années 1930 et malgré des éclipses, et en particulier des éclipses au moment de la lutte de libération nationale, où la question des femmes a été mise entre parenthèses, comme partout ailleurs d'ailleurs, parce que c'était pas le moment. Vous savez que c'est la grande histoire, c'est jamais le moment, hein, pour les femmes. Mais il y a cette mémoire du féminisme qui est extrêmement importante, sans parler également de généalogie familiale qui joue leur rôle dans la transmission de la mémoire. Donc je crois que la transmission d'une mémoire politique est quelque chose de fondamental pour expliquer la nature des mouvements politiques dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis une dizaine d'années dans le monde arabe.
Alors comment elle peut se faire justement cette transmission de la mémoire s'agissant de ce qui s'est passé en 1989 en Chine, Lunzhang? Les 30 ans évidemment n'ont pas été commémorés, pas évoqués par le régime. Est-ce que c'est quelque chose qui est transmis dans les familles? Est-ce que vous savez ça, si ça existe, ou bien est-ce que on met un peu un couvercle sur ces événements, on évite d'en parler parce qu'on considère qu'on est passé à autre chose?
C'est pas parce qu'on voulait parler d'autres choses, on passait pour d'autres choses. Essentiellement, c'est par la peur. On parle pas beaucoup à la maison, par exemple, les parents qui ont participé en 89, ils ne parlent pas avec les enfants, par crainte que si une fois ils parlent aux enfants, les enfants parlent ce genre de choses avec les autres, ça va créer des ennuis, ça risque de gros. Du coup, on fait une auto-censure. On parle pas. Cela explique d'une partie la lacune de mémoire, c'est de jeunes générations. Maintenant, beaucoup de jeunes savaient pas. C'est pas 89. Il existe un mouvement. Hein, beaucoup de jeunes ne savaient pas. Hein, bon, donc. Bien sûr, de l'autre côté, il y a cette répression, cette oppression très forte de la part du régime. On parle pas, on essaie tout masquer. Je dis toujours, hein, parce que le régime sans cesse dit que 89, on a bien fait. Mais je dis que si vous avez fait une super chose, pourquoi vous voulez pas que les gens qui parlent, t'en parlent, voilà. Donc c'est quelque chose extraordinaire. C'est voilà. Donc et c'est cette manque de cette lacune, manque de mémoire s'explique essentiellement par la crainte, par la peur.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension? Là, je vais faire comme Jean-Bernard Baum, je vais faire une citation d'un poète chinois, en l'occurrence, un poète en exil, Liao Yiwu, qui a écrit un poème sur Tiananmen, très très célèbre, qui répondait à une interview, c'était dernièrement dans le journal La Croix, et qui dit ceci: la stratégie de Xi Jinping est d'asservir la population à travers l'appétit de consommation. Les bourreaux sont en train de triompher. C'est-à-dire pas seulement la peur, mais finalement le fait aussi de proposer un modèle qui éteint toute velléité de contestation, parce qu'on est dans une société de consommation avec un régime et un parti communiste toujours au pouvoir. Mais cette dimension-là aussi.
Vous savez, ce genre de choses, c'est monnaie courante. Hein. Pour un régime autoritaire, c'est toujours carotte, bâton. Hein. Mais pour un régime totalitaire, c'est encore plus de carotte, encore plus de bâton. Donc, c'est quand même, beaucoup de gens n'ont pas compris une autre chose, c'est que 89 quand même contribue à beaucoup, avec le sacrifice, quand même contribue beaucoup à l'avancée de la Chine. C'est que après 89, l'ancien affrontement entre le camp conservateur et réformateur n'existe plus. Tout le monde est devenu sous le choc de 89. Bien sûr, à l'extérieur, c'est l'effondrement du bloc Union soviétique, et tout le monde est devenu réformateur parce qu'il sait que le seul moyen de garder le pouvoir, c'est réformer la Chine, mais simplement dans le champ économique. En même temps, tout le monde est devenu conservateur dans le champ politique. Personne maintenant vous pouvez toucher le pouvoir, mais quand même, il y a un déplacement de l'enjeu, donc ça débloque certaines choses et ça, cela permet de prendre dans le développement économique chinois. Mais en même temps, il y a des conséquences, c'est qu'on a fermé l'espace, par exemple, la rue, il y en a plus de manifestations depuis 30 ans, il y en a plus de manifestations politiques. De temps en temps, il y a certaines manifestations rassemblées populaires en thème de revendications sociaux, mais rapidement, avec justement le carotte, on achète, en même temps le bâton, on calme les jeux. Mais depuis 30 ans, on n'a plus ce genre de manifestations comme des années 80, c'est-à-dire que les manifestations estudiantines pour revendiquer plus d'ouverture, plus de liberté, etc. Donc, il y a la fermeture d'espace, la fermeture de la rue. Donc, ça donne des conséquences aujourd'hui qu'on a, tout le monde a constaté que malgré le croissance, malgré le changement de niveau matériel, mais on constate un paradoxal très très indexant. D'un côté, c'est un pouvoir qui montre une image hyper puissante, agressive devant le monde entier. En même temps, c'est un pouvoir hyper fragile, hyper sensible. Et vous, si vous traversez dans la rue à Pékin, vous passez le temps prendre un bus, métro, on contrôle encore comme à l'aéroport. Vous imaginez quel pouvoir fort, vrai confiant de lui fait ce genre de choses. Là, la racine, c'était un catapulte. Ce que je voulais dire une chose, c'est que, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de cette dimension, je pense que on parlait de ce rapport entre la rue et le pouvoir, etc. C'est peut-être c'est quelque chose de la modernité. Dans la tradition, dans l'histoire ancienne, on a toujours ce genre de conflit, mais c'est pas peut-être pas tout à fait la même dimension. Maintenant, depuis l'époque moderne, quel que soit l'endroit dans le monde, c'est plutôt de plus en plus cette dimension démocratique, hein, que la confrontation avec le pouvoir sous l'angle démocratique qui s'impose, qui lance la question. C'est là, je pense que sur ce angle-là, on peut, à partir de cette perspective, on peut revoir l'histoire du XXe siècle de la Chine et beaucoup d'histoires de la rue autour de cette question.
Sophie Bessis, en écoutant Lun Zhang, je me dis c'est intéressant, il fait ce rapport entre fermeture du pouvoir, étouffement politique, étouffement économique aussi, et fermeture de la rue. En Algérie, si les gens ont réinvesti massivement les rues, c'est aussi parce qu'ils en avaient assez de n'avoir pour seule option, d'avoir pour seule option de se jeter à l'eau également. Vous savez, il y a un morceau de rap qui a beaucoup circulé qui dit « Je préfère être mangé par les poissons que par les vers de terre » pour dire, voilà, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de tenter l'aventure vers l'Europe sur une navigation, sur un petit bateau fragile et souvent vers le pire des cauchemars. Donc finalement, en Algérie, cette reconquête de la rue n'a pas été seulement une reconquête de la rue comme espace de vie, mais aussi la reconquête d'une rue parce qu'on ne veut pas mourir dans la mer.
On ne veut pas mourir dans la mer, effectivement, puisque de toute façon, vu la politique européenne, on meurt de plus en plus dans la mer. Il ne faut pas oublier tout de même la responsabilité des politiques européennes, mais pourrait-on dire par forfait, par défaut, eh bien, les jeunesses dans cette partie du monde et ailleurs, d'ailleurs, hein, pourraient aller vers l'Afrique subsaharienne. Pensons au départ de Blaise Compaoré au Burkina, il y a quelques années, son départ était obtenu par la rue également. Eh bien, n'ont pas d'autre solution que de reprendre possession de leur pays. Il n'y a plus d'échappatoire. L'échappatoire de la migration, elle n'existe plus. Les pays européens se referment sur eux-mêmes et ce sont des forteresses qu'il est de plus en plus difficile, dans lesquelles il est de plus en plus difficile d'entrer. Et donc, c'est une question de survie. Et les Algériens l'ont très bien dit, d'autres également l'ont dit dans cette région du monde. Eh bien, on ne veut plus mourir. Et donc, eh bien, il nous faut récupérer notre espace de citoyenneté, notre espace politique pour pouvoir commencer une nouvelle vie politique.
Merci Sophie Bessis, merci Pape Ndiaye et merci Lun Zhang d'avoir été nos invités pour cette dernière journée des 33e rencontres de Pétrarque. Les ouvrages des uns et des autres, on les retrouve évidemment sur le site de France Culture. À la page des rencontres de Pétrarque. Merci Jean Birnbaum, on vous retrouve
Hervé.
Dans le monde des livres tout cet été évidemment.
Mais bien sûr, 24-24, 7 jours sur 7.
Merci aux équipes du rectorat de Montpellier, aux équipes du Festival de Radio France, les rencontres de Pétrarque. Une émission réalisée par Nathalie Salle avec à la prise de son Julien Calvas et Patrick Muller, à la sonorisation Gilles Manet et Alex Martin et à la coordination, à la préparation, l'indispensable et l'incontournable Fanny Richer. À bientôt et bonnes vacances.